Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأس ساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce mercredi 31 mai 2023. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Lavrov accuse l'Occident de soutenir le génocide des Russes dans l'Est de l'Ukraine. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, la coopération Téhéran-Ashgabat, considérablement développée au cours des deux dernières années, réaffirme le président Raïsi. Les relations Iran-Émirats arabes unis se développent dans les secteurs publics et privés, affirme Amir Abdollahian, ministre des Affaires étrangères. Et puis l'Iran exhorte l'Occident à réexaminer et rectifier sa politique envers la Syrie. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. La coopération Téhéran-Ashgabat, considérablement développée au cours des deux dernières années, réaffirme le président Raïsi. La coopération entre Téhéran et Ashgabat s'est vigoureusement développée au cours des deux dernières années avec la volonté de l'Iran de renforcer les relations de bon voisinage, a fait valoir le président de la République islamique d'Iran ce mardi. Seyyed Ebrahim Raïsi, lors de la visite du chef du Conseil du peuple turkmène en République islamique d'Iran, mardi soir 30 mai, a déclaré que les relations entre les deux pays reposent sur de profondes affinités culturelles et civilisationnelles qui vont au-delà des simples relations de bon voisinage. La coopération entre Téhéran et Ashgabat a connu une croissance significative au cours des deux dernières années, lorsque la volonté du gouvernement de la République islamique d'Iran a été de renforcer les relations de bon voisinage. Déclarant qu'il n'y a aucun obstacle au développement des relations entre les deux pays, le président a ajouté « Les deux pays ont le potentiel d'élargir la coopération dans les domaines de l'énergie, du transport, du transit, des douanes, de l'agriculture, de la science et de la technologie. » Les relations Iran-Émirats Arabes Unis se développent dans les secteurs publics et privés. Déclaration d'Amir Abdollahian. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a qualifié les Émirats Arabes Unis de partenaire commercial fiable de l'Iran et a déclaré que les relations entre les deux pays seront développées dans les secteurs publics et privés. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a rencontré et discuté avec Khalifa Shahin al-Marar, ministre d'État des Émirats arabes unis, dans la soirée du mardi 30 mai 2023. Lors de cette réunion, le ministre iranien des Affaires étrangères a considéré l'expansion de la coopération conjointe dans l'intérêt des deux pays et de la région. se référant à la politique de bon voisinage du 13e gouvernement dans le développement des relations avec ses pays voisins, le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, a qualifié les Émirats arabes unis de partenaire commercial fiable et ajouté « Les relations entre les deux pays seront développées dans les secteurs publics et privés ». Pour sa part, Khalifa Shahin Al-Marar, ministre d'État des Émirats arabes unis, a souligné la volonté de son pays à développer les relations avec la République islamique d'Iran. L'Iran exhorte l'Occident à réexaminer et rectifier sa politique envers la Syrie. L'ambassadrice et représentante permanente adjointe de l'Iran auprès des Nations Unies, Zahra Ershadi, a déclaré que le retour de la Syrie dans la Ligue arabe et la reprise des relations avec les pays arabes sont considérés comme des étapes importantes pour contribuer à la sécurité, à la stabilité et à la prospérité de la Syrie, et a ajouté « Nous espérons que les pays occidentaux réexamineront bientôt leur politique envers la Syrie ». L'ambassadrice et représentante adjointe de l'Iran auprès des Nations Unies a déploré à la séance du Conseil de sécurité des Nations Unies mardi que le niveau actuel de financement alloué à la réponse humanitaire syrienne soit bien en deçà des besoins. Ershadi, il y a vu une grave entrave aux efforts de l'ONU visant à fournir une assistance à ceux qui en ont besoin. En outre, l'imposition persistante de sanctions unilatérales demeure un obstacle important à l'amélioration de la situation humanitaire et économique de la Syrie, a-t-elle ajouté, appelant à une approche globale du problème qui garantisse un financement suffisant, assure une distribution impartiale de l'aide et supprime les sanctions contre-productives. Elle a également jugé essentiel de donner la priorité aux projets de relèvement rapide et d'améliorer l'acheminement de l'aide humanitaire dans toute la Syrie, en particulier par-delà les lignes de front qu'ont prévues dans la résolution 2672. Saluant le soutien apporté par Damas à l'ONU pour permettre la livraison de secours aux zones touchées par la crise, la représentante a félicité le gouvernement syrien pour avoir prolongé de 3 mois supplémentaires l'utilisation des points de passage frontaliers de Bab el-Salam et de Raï jusqu'au 13 août. Elle a par ailleurs dénoncé les activités terroristes dans les zones sous occupation, estimant que la lutte contre ce fléau doit être menée dans le plein respect de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance de la Syrie. Il y a certainement de graves conséquences qui attendent toute violation de l'espace aérien iranien. Le général de brigade Ali Reza Elhami a fait ses commentaires lors d'une cérémonie au cours de laquelle le commandant adjoint de la force de défense aérienne, le général de brigade Nasrullah Houchmand, a été nommé nouveau commandant du commandement de la défense aérienne du sud-est de l'armée. Se référant à la capacité de défense de l'Iran, le général de brigade Elhami a déclaré « La capacité des systèmes de missiles et de radars est l'un des axes les plus importants de la stratégie militaire de notre pays pour faire face aux éventuelles menaces des ennemis », ajoutant qu'il y avait certainement de graves conséquences qui attendent toute violation de l'espace aérien iranien par des étrangers. Déclarant que la défense aérienne de l'Iran dispose des systèmes de radars et de missiles les plus avancés avec une portée de plus de 300 km et la capacité de détecter des menaces à plus de 2000 km, a-t-il noté, l'amélioration des équipements de défense est suivie avec sérieux dans le cadre de l'objectif de sécurisation des intérêts nationaux et d'augmentation du pouvoir de dissuasion. Enfin, l'Iran teste avec succès un avion de transport léger. Le ministre de la Défense, le général de brigade Mohammad Reza Ashtiani, a déclaré mardi que l'Iran avait testé avec succès un avion de transport léger appelé Simorgh, qui est une variante repensée et avancée d'un avion de même génération. L'avion a été conçu avec des matériaux indigènes conformément aux conditions climatiques de l'Iran et aux normes internationales, a-t-il noté. L'avion de transport léger doit jouer un rôle de premier plan dans le transport de fret, de personnel et de soutien aux forces armées sur les champs de bataille. fabriquée par les spécialistes de l'Iran et Aviation Industrielle Organisation, Simorgh a été dévoilée le 19 mai 2022. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Lavrov accuse l'Occident de soutenir le génocide des Russes dans l'est de l'Ukraine. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a condamné l'Occident avec à sa tête les États-Unis pour son soutien au génocide des Russes, selon ses mots, en Ukraine. L'Occident soutient le plan de génocide de Kiev, qui consiste à détruire tout ce qui est russe dans les quatre régions ukrainiennes, à savoir Zaporojia, Kherson, Lugansk et Donetsk, annexées à la Russie. Lors d'une conférence de presse mardi 30 mai à Bujumbura, au Burundi, Lavrov a déclaré que l'Occident avait fermé les yeux sur la persécution par Kiev des habitants russes dans la région du Donbass. La conclusion est très simple, l'Occident soutient directement le génocide, a-t-il dénoncé. Auparavant, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, avait publié un message sur les réseaux sociaux dans lequel elle disait que l'objectif de l'opération militaire spéciale de Moscou dans l'est de l'Ukraine était de mettre fin à l'extermination systématique de la population du Donbass par des néo-nazis depuis 2014, ce qui avait été d'ailleurs indiqué par le président russe. Ainsi, la campagne militaire russe dans l'est de l'Ukraine a débuté le 24 février 2022 sous l'ordre de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a confirmé mardi qu'une frappe de l'armée russe contre le quartier général de la direction principale du renseignement de l'armée ukrainienne dans la capitale ukrainienne, Kiev, a eu lieu. Nous avons déjà évoqué la possibilité de frappe contre les centres de prise de décision. Le quartier général du renseignement militaire ukrainien qui a été attaqué il y a 2 ou 3 jours, en fait partie. En réponse, le régime de Kiev a choisi une voie différente en attaquant Moscou, a ajouté Vladimir Poutine. Mardi à l'aube, Moscou a été le théâtre d'une attaque de drones, moins d'un mois après celle qui avait, selon la version russe, visé le Kremlin. L'attaque n'a fait que des blessés. Vladimir Poutine estime que cette frappe est une réplique à des frappes russes récentes, notamment sur le quartier général des renseignements ukrainiens, et accuse l'Ukraine de vouloir terrifier les Russes. Le soutien des Occidentaux au régime de Kiev pousse les dirigeants ukrainiens à commettre des actes criminels de plus en plus irresponsables, a suggéré le ministre russe des Affaires étrangères dans un communiqué accusant l'Ukraine de chercher à semer la panique en Russie. Le président russe a indiqué que Kiev menaçait odieusement la centrale nucléaire de Zaporojia en Ukraine et d'utiliser la bombe sale, selon ses mots, ce sont les actes les plus graves poursuivis par Kiev. L'armée russe mènera des frappes en Ukraine uniquement contre des cibles militaires, telles que des décharges de munitions et des dépôts de carburant, à l'aide d'armes de haute précision, a-t-il assuré. Le site de la plus grande centrale nucléaire d'Europe avait de nouveau été pris pour cible en août 2022. Les autorités russes de la ville d'Energodar, où se trouve la centrale de Zaporojia, ont affirmé que c'est l'armée ukrainienne qui a tiré un engin à sous-munitions avec un lance-roquettes multiple, Ouragan. Les éclats et le moteur de la roquette sont tombés à 400 mètres d'un réacteur en marche. Cette frappe a endommagé des bâtiments administratifs et touché une zone de stockage de combustible nucléaire usagé, ont-ils également ajouté. Dans les semaines à venir, la France fermera et équipera plusieurs bataillons ukrainiens avec des dizaines de véhicules blindés et de chars légers. La France est engagée à envoyer des dizaines de véhicules blindés et de chars légers en Ukraine, conformément au soutien débridé de l'Occident à Kiev dans sa guerre face à Moscou. La Russie estime que les agissements anti-russes de l'Occident, y compris sa persévérance à inclure l'Ukraine dans l'alliance militaire de l'OTAN et l'expansion de cet organe jusqu'aux frontières russes, ne lui ont laissé aucun choix que de déclencher la guerre. Moscou a averti à maintes reprises que fournir à Kiev des armes et des équipements militaires occidentaux ne ferait que prolonger le conflit. Afin de rassurer ses alliés européens, Zelensky a affirmé en Allemagne que Kiev et ses alliés pourraient rendre irréversible une défaite russe, selon ses mots, dès cette année. Les alliés occidentaux, cependant, jusqu'à présent refusé de satisfaire certains des besoins de l'Ukraine, notamment en avions de chasse.
Bonjour à tous, bienvenue dans les studios de Presse TV dans la capitale iranienne, Téhéran. Le sujet du jour étant le continent africain et de plus en plus son désir de se séparer du monde occidental ou en tout cas d'aller voir ailleurs. C'est le sujet donc de notre débat. Comme le veut le format débat, tout d'abord nous allons commencer par un reportage qui résumera d'une certaine manière la situation et par la suite nous ferons venir deux de nos invités. Aujourd'hui, nos deux invités sont Jean-Maxime Cornet, analyste politique, et Luc Michel, géopoliticien et panafricaniste. Donc d'abord la venue de nos invités, on commence par Jean-Maxime Cornet, analyste politique. Bonjour Monsieur Cornet.
Bonjour à vous, bonjour Téhéran depuis Versailles.
Ravi de vous avoir avec nous sur les plateaux de Presse TV. Notre deuxième invité, vous le connaissez, Monsieur Luc Michel, souvent pro-panafricaniste. Bonjour Monsieur Luc Michel, ravi de vous avoir avec nous.
Moi aussi, ravi de vous retrouver. Bonjour à votre équipe et à votre invité.
C'est gentil, merci. Alors le sujet du jour est donc l'Afrique, le continent africain, et de plus en plus des informations nous viennent du continent montrant une séparation, une volonté d'aller revoir ailleurs, de faire de nouveaux ponts au niveau de leur diplomatie. Ça a commencé avec le Burkina Faso et le Mali, et étrangement, la CDAO n'a pas réellement et très fortement puni ces deux pays. Monsieur Luc Michel, on commence par vous. Est-ce un signe de montrer que plusieurs pays africains, membres de la CDAO, sont tout à fait dans la volonté de faire comme le Burkina Faso ou le Mali, peut-être en moins fort, mais de faire d'autres relations diplomatiques avec d'autres pays, voire d'autres continents.
On est dans un autre cycle géopolitique. Et les Africains se détournent de l'Occident. Hier, la BBC monte à lancer toute une grosse campagne contre la Russie en Afrique. Mais elle reconnaît que la Russie a chassé la France d'Afrique et elle est en train de faire avec les Occidentaux. Ce qui se passe actuellement, c'est que c'est un phénomène qui concerne pas seulement l'ancienne Afrique française ou le Sahel, mais qui concerne toute l'Afrique, comme le reconnaît la BBC. C'est donc, je pense, la perte définitive de la France par les Occidentaux et de l'Afrique, bien entendu. Ils ont mené un combat désespéré, notamment les Américains, ils n'ont rien y fait, parce que le sentiment anti-occidental est puissant.
Merci, Monsieur Luc Michel. Monsieur Corneille, alors vous êtes d'accord, le Burkina Faso a-t-il et le Mali ont-ils montré la voie aux autres pays africains en disant c'est possible d'être moins dépendant des pays anciennement colonisatrices. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue ?
Pardon, la question est pour moi ?
Oui, pour vous, monsieur Corneille.
Il y a une coupure, excusez-moi.
D'accord.
Alors, oui, l'indépendance, oui, la question c'est l'indépendance de quoi ? Voilà. En réalité, la France ayant récemment pris parti pour globalement les intérêts qui historiquement détruisaient les intérêts français en Afrique, eh bien à présent, la France ayant été soumise, l'Afrique est en train de s'émanciper, non pas réellement de la France, mais elle est en train de s'émanciper d'un mondialisme financier d'origine historiquement anglo-américano-israélien qui a globalement causé de nombreux troubles en Afrique et contre lequel historiquement la France-Afrique fut un rempart pendant bien longtemps. Ce qui est intéressant avec M. Luc Michel, c'est que historiquement, la Belgique comme la France ont été les deux pays francophones qui ont spécifiquement été ciblés en Afrique. Et à présent qu'aujourd'hui, la Belgique comme la France sont soumis, et récemment la France depuis 2007, et surtout avec Macron, c'est encore plus visible, ça a vraiment été une continuité, hein. Sarkozy, Hollande, Macron. Et bien à présent, donc, en effet, il y a un changement de cycle, c'est-à-dire que les pays africains sont encouragés aujourd'hui par l'émergence d'un bloc nouveau eurasiatique qui en réalité va faire ce que la France antérieurement faisait. C'est-à-dire que la logique bloc contre bloc, avant c'était les anglo-américano-israéliens contre la France et il y avait parallèlement l'Union soviétique qui avait d'autres intérêts et des types de pénétration idéologique comme d'ailleurs la Chine maoïste. Or aujourd'hui la Russie comme la Chine sont en train de sortir de cela. La Chine en elle-même étant également en train de sortir du communisme, même si c'est un peu plus discret. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Russie et la Chine ont une masse critique qu'antérieurement la France n'avait pas en Afrique. La France a été seule à s'opposer à tous ses intérêts et elle a été broyée, avant tout par la suite de trahison intérieure en France et de trahison vis-à-vis de nos anciens alliés, car par bien des égards, nous les protégions contre justement ce qu'on appelle aujourd'hui les révolutions de couleur. Eh bien aujourd'hui, la France ayant pris le parti donc des subvertisseurs historiques de l'Afrique, il est une bonne chose, il est naturel que les Africains prennent le parti de la partie adverse, à une époque où justement la Russie et la Chine ont une action en réalité plus saine en Afrique. Cela ne veut pas non plus dire que ce soit non plus des enfants de cœur, mais encore une fois, c'est une lutte pour des intérêts. Rappelez-vous que nous combattons pour des intérêts stratégiques avant tout, donc des matières premières stratégiques, ou une certaine rentabilité, mais certainement pas pour des idéologies. Les idéologies ne font qu'habiller des guerres d'intérêts en Afrique. Voilà pour ma première réponse.
Merci, monsieur Corneille. Monsieur Luc Michel, d'habitude, je n'aime pas demander ce que vous en pensez, mais allez-y. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos tenus par monsieur Corneille et est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ?
La tentative de dédouaner la France-Afrique, la France qui est de l'Europe de l'Afrique, je la trouve scandaleuse. L'Afrique a légitimement perdu l'Afrique comme représentante de l'Occident. Secondement, je n'ai de Belge que mon passeport. Historiquement, je maintiens au courant pro-russe que je soutiens Moscou depuis 50 ans. Me voir qualifié de belge et d'intime.
Merci, M. Michel. Alors, M. Corneille, selon vous, que pensez-vous de ce qui va arriver pour le sommet proposé par la Russie aux différents pays du continent africain ? Nous avions vu il y a quelques mois déjà une participation, mais elle n'était pas unanime. Est-ce qu'il pourrait y avoir une participation plus unanime sur toute l'Afrique concernant donc ce meeting qui aura lieu donc en Russie ?
Alors globalement, comprenez qu'il s'agit d'un glissement. Un glissement dont l'élément déclencheur a surtout été la date de l'intervention russe en Syrie, c'est-à-dire septembre 2015, à partir de laquelle j'avais dit à l'époque qu'il y allait avoir en réalité une diplomatie qui allait traduire le sort des armes d'une façon exactement parallèle à la façon dont les printemps arabes avaient été artificiellement propagés depuis les supplétifs des américano-anglo-israéliens, les supplétifs localisés au Moyen-Orient, c'est-à-dire historiquement les États du monde oriental qui avaient promu le djihadisme historiquement sur injonction anglo-américaine. Rappelez-vous par exemple que l'Arabie Saoudite, grande promotrice du wahhabisme, avec des ramifications dans tout le monde occidental, dans tout le monde, pardon, musulman, jusqu'au tréfonds de l'Afrique, était historiquement un otage de la réalpolitik pétrolière britannique historiquement, puis anglo-américaine au gré d'une lutte d'influence. On oublie bien souvent que les anglo-américains étaient avant tout des rivaux en matière pétrolière. Et que c'est pour cette raison qu'a historiquement été créé un terrorisme artificiel que la France fut le premier État occidental à avoir dénoncé. C'était dans 1930, le turban vert, Xavier de Hauteclocque, cousin du maréchal Leclerc. C'était un agent du renseignement français qui dénonçait la façon dont les Britanniques formaient artificiellement un terrorisme wahhabite, prétendument musulman, qui avaient pour but de promouvoir leurs intérêts dans l'intégralité du monde musulman. Par analogie, il s'est passé exactement la même chose à partir de 2015, en réalité depuis le printemps arabe de 2000, à partir de 2011, pour la date que nous connaissons. On pourrait même dater ça depuis le 11 septembre 2001. Mais à partir de cette intervention russe et du discret soutien de la Chine au Moyen-Orient, il y a eu un retournement, c'est-à-dire un ensemble de prises de conscience de la part de pays qui historiquement étaient ses promoteurs du djihadisme, mais en commandite, non pas pour leurs intérêts propres, mais pour, comme d'habitude, les anglo-américano-israéliens. C'est par prise de conscience avant tout commandée par le sort des armes que j'avais dit à l'époque en 2015 que l'Arabie saoudite allait devoir comprendre, sinon elle serait elle aussi sacrifiée. Car rappelez-vous que l'agenda de l'État islamique, c'était aussi de cibler à terme l'Arabie saoudite et en réalité tout le Moyen-Orient. Et donc, aujourd'hui, dans ce soutien nouveau de l'Afrique à la Russie, nous avons un glissement et nous avons globalement un instantané d'un mouvement qui est en cours, qui est évolutif par définition. Mais tout porte à croire que les pays africains vont graduellement, en effet, rejoindre ce nouveau front commun emmené aujourd'hui par la Russie, qui en réalité reprend, au Moyen-Orient comme en Afrique, le rôle qui historiquement était celui de la France. C'était déjà vrai en partie pour la Chine-Afrique. Bien souvent, les infrastructures qui avaient été créées par les Chinois ou par les Belges ou par les Français ont été remises en œuvre par les Chinois par bien des égards. C'est-à-dire que la Chine et la Russie, avec une nouvelle masse critique plus puissante que la France antérieurement, reprennent des logiques, d'anciennes logiques de développement, notamment franco-belge, quoi qu'en pense mon interlocuteur Monsieur Luc Michel, s'il n'est pas en paix avec sa nationalité, ce n'est pas mon problème. La Belgique n'a jamais été qu'un État factice, mais c'est un autre sujet. Par contre, donc pour votre réponse, cette rotation en réalité, ce renversement géopolitique est en cours, et donc tout porte à croire que davantage de pays africains rejoindront le parti de la Russie. Voilà pour ma réponse.
Merci, Monsieur Corneille. Monsieur Luc Michel, il semblait normalement avoir une plus grande guerre en Russie, en Ukraine pour le printemps, voire en période plus chaude. Il n'y a toujours pas eu de contre-attaque de la part de l'Ukraine. Est-ce également un signe pour les pays africains de se rapprocher plus de la Russie, voyant que la situation ukrainienne est plus en faveur de la Russie à l'heure actuelle ?
Aussi bien en Ukraine qu'au Mali, les Africains voient l'efficacité de la Russie qui a été démontrée en Centrafrique précédemment. Il faut constater que derrière la propagande de l'OTAN, l'Ukraine est en train de se montrer. Il y a trois jours, le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Zaluskiy, a été abattu par l'artillerie de Wagner. Il est inconnu dans un hôpital de Kiev. Voilà donc, dans ces conditions, parler d'une contre-offensive, c'est purement de la propagande noire qu'on parle de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui est pas rouge, c'est que les Russes qui sont intervenus en Afrique à la suite du printemps africain, c'est-à-dire en août 2015, dans un projet géopolitique, la BBC y a expliqué ce projet avec raison. C'est la constitution d'un bloc africain d'États anti-impérialité, anti-occidentaux. Et vouloir nous faire croire que la France suivait cette politique auparavant, c'est de ne pas savoir ce qu'était la France-Afrique, ni ce qu'était le colonialisme français au Liban ou en Syrie. La France est un déchet géopolitique et c'est un lieu pour dépenser des idiots qui ont été imposés au peuple du monde.
Merci, M. Luc Michel. Monsieur Corneille, on voit ces derniers temps, je ne vais pas répliquer sur le Michel, vous avez donné votre opinion sur le sujet. On va plutôt voir comment ces derniers temps, le continent africain se restructure, parce qu'il y a une restructuration rien qu'au niveau des routes en Afrique, des projets manufacturiers en Afrique, entre pays africains, on parle notamment entre l'Égypte et plusieurs pays africains. On pense à l'Algérie, on pense même au Maroc, qui a plus d'associations avec la Côte d'Ivoire. Les ports qui les ports africains qui commencent également à s'agrandir. Est-ce que l'Afrique, vous avez dit que la Russie va jouer le rôle de la France historiquement, mais est-ce que c'est pas l'Afrique, même s'il va choisir un peu plus la Russie, est-ce que l'Afrique va prendre ce temps à l'heure actuelle pour se restructurer et peut-être tout simplement sortir, quels que soient les jougs, que ce soit le joug occidental ou que ce soit le joug d'Asie. Est-ce que vous pensez que c'est du domaine du possible de la part du continent africain? Et est-ce que c'est dans sa volonté, selon vous?
Alors, que cela soit dans sa volonté, de fait, non. Ça serait sa volonté si vraiment des prises de conscience africaines étaient réalisées. Les Africains, pour l'instant, sont en train de prendre conscience, surtout du fait que les Chinois seront autrement plus pragmatiques que les Français. Les Camerounais, aujourd'hui, s'en plaignent. Ils sont en train de réaliser qu'avant, les Français les payaient mieux. Et oui, parce que c'était ça, la France-Afrique. C'était payer et c'était créer des, non pas uniquement des amitiés et des alliances, mais créer également des zones de développement concentriques. Est-ce que M. Luc Michel sait, par exemple, que la colonisation dans l'Afrique du Nord s'opérait par les colonisés? En réalité, Anton Zischka l'avait prédit en 1952. Nous allons avoir, et de fait nous avons, le retour des vieilles constances stratégiques telles qu'elles sont globalement en place depuis des millénaires, mais avec des moyens modernes. En revanche, ces moyens modernes, malheureusement, les Africains ont un grand... Ils savent les utiliser, ils ont énormément de mal à les créer. Sans doute aussi parce que beaucoup d'Africains disent qu'ils manquent. Ce sont les Africains qui sont leurs meilleurs critiques en réalité, les meilleurs critiques d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a bien des prises de conscience et il y a bien de la fierté un peu déplacée de la part de beaucoup d'Africains qui en réalité ne prennent pas beaucoup leçon de la difficulté d'organisation des sociétés africaines, on va dire, à l'époque moderne. On le voit notamment au Nigeria. Mais ça, ce sont des questions africaines. Le sujet, c'est qu'en effet, l'Afrique va, avec ou sans la France-Afrique, rester ce qu'elle est, c'est-à-dire un enjeu.
La question de savoir excusez-moi de vous interrompre brutalement, mais vous parlez de la manière dont les Africains perçoivent leur propre système, mais ce n'est pas eux qui ont mis en place le système, c'est un système qui est étranger à leur propre culture. Beaucoup d'historiens ont critiqué le fait même des frontières, ce sont des vieux sujets, hein. Les frontières africaines ne respectent pas le système tribal, ça a provoqué certaines réactions tribales qu'on connaît encore aujourd'hui, les réactions et les interactions par rapport à ça. Vous mettait en cause la pensée africaine, mais beaucoup disent que ce n'est pas comme ça qu'il faut percevoir la chose. C'est un système occidental qui a été installé et imposé en Afrique, et après l'Africain a dû faire avec. Mais c'était comme une langue étrangère et son système ne correspond pas à son besoin. Est-ce que vous ne pensez pas que vos paroles sont en contradiction avec ça?
Dual, à la fois oui et non, parce qu'il y a plusieurs sujets superposés. Les Occidentaux ont en effet importé, pour des raisons tantôt de maladresse, tantôt de calcul, des frontières complètement artificielles. Mais il y a eu également un irénisme occidental débilitant pour l'Afrique. J'entends des bonnes volontés artificiellement importées, notamment la France, c'est-à-dire lorsque l'on a voulu, par exemple, instaurer la démocratie, soi-disant parce que les États modernes doivent nécessairement être démocratiques, ou alors que l'on superpose ceci avec d'anciennes logiques de lutte entre certaines peuplades pastorales, certaines peuplades agricoles, les unes étant militaires, les autres ne l'étant pas ou l'étant moins. Ces conflits préexistaient avant la France et que bien souvent, par exemple, là pour l'exemple français qui est vraiment important dans une grande partie de l'Afrique, nous avons importé par bonne volonté les germes de conflits sans fin, c'est absolument juste. De là à dire que nous ayons importé tous les problèmes en Afrique, c'est totalement faux, mais globalement, les conséquences de la colonisation et surtout des bonnes volontés idéologiques, bien souvent largement problématiques, ont créé en effet plus de problèmes qu'elles n'en ont résolu, c'est absolument clair.
Mais c'est aussi excusez-moi, j'ai envie de vous interrompre deux secondes sur la situation en Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire a eu des problèmes politiques extrêmement importants, et ce sont des faits prouvés par des journalistes français qui se sont intéressés au sujet, comme quoi le conflit Ouattara-Gbagbo a été directement initié par les militaires français.
De quelle époque parlez-vous exactement?
Je parle de l'époque où Gbagbo s'est fait arrêter et s'est fait kidnapper chez lui pour se retrouver en ce pays.
Nous étions à l'époque Sarkozy, n'est-ce pas?
Je crois, oui, si je ne me trompe pas. Il y avait Fillon en ministre.
Bien évidemment, nous étions à l'époque Sarkozy. Sarkozy a détruit ce qu'il restait des intérêts france-africains. Je fais une incise rapide sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était la vitrine de la présence française en Afrique de l'Ouest, c'était le poumon économique de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi la Côte d'Ivoire a-t-elle été détruite par nos soi-disant alliés anglo-américano-israéliens? Pour plusieurs raisons. Avant tout pour les matières premières stratégiques, parce que les intermédiaires du cacao voulaient faire leur grande manœuvre et compromettre la Côte d'Ivoire, mais également parce que les Américains voulaient le pétrole au large de la Côte d'Ivoire. Et aussi parce que nos amis israéliens voulaient remplacer les commerçants libanais qui approvisionnaient le Hezbollah. À partir de cette triple logique, la France a été une traître aux intérêts de nos alliés de Côte d'Ivoire en 1999 en refusant d'intervenir dans le coup d'État à l'époque qui a démis Conan Bédier, je crois, en 1999, lorsque la France a refusé de protéger la Côte d'Ivoire, ça a été le début de la fin. La France, au contraire, a gelé le conflit et a imposé à la Côte d'Ivoire, un État allié, de supporter la partition de son pays avec des groupes rebelles financés par les intérêts anglo-américano-israéliens plus les firmes multinationales du cacao. Ça a été une situation dans laquelle l'armée française est passée pour une idiote de bout en bout. Les Israéliens s'en sont donnés à cœur joie. Ils ont mis leurs snipers pour tirer sur les uns sur les autres pour faire croire que c'était la France qui avait causé problème là-bas. Mais au résultat, en effet, à l'époque Sarkozy, nous avons définitivement achevé la Côte d'Ivoire telle qu'elle était l'allié france-africain de la France. Et c'est une pure trahison à la fois des intérêts français, des intérêts de la Côte d'Ivoire, ivoirien, et de la réalité de ce qu'était la France-Afrique auparavant. Et c'est un grand drame, j'en conviens.
Merci, Monsieur Corneille. On pourrait parler du continent africain pendant longtemps, parce que dans le continent africain, il y a beaucoup de pays avec différentes relations avec le monde occidental. Je vous remercie, Monsieur Corneille, pour votre participation. On espère vous avoir pour un autre débat, notamment peut-être pour l'Afrique encore une fois. Monsieur Michel, toujours un plaisir de vous avoir en tant qu'expert. C'est ici que le débat se finit pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires, voir notre débat sur notre site et nos réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt pour un autre sujet du débat ici dans la capitale iranienne, Téhéran. Au revoir.
Ici, le Moyen-Orient.
Amis auditeurs, merci d'être avec nous. Nous voici avec un autre programme portant sur l'actualité de l'Asie de l'Ouest. Restez avec nous. Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré que l'unilatéralisme est en déclin dans le monde. Ce sont plutôt les pays et les institutions de la région qui prennent le devant de la scène dans la détermination des équations internationales et des développements futurs, a souligné le président iranien mardi 30 mai lors d'une rencontre avec Kairat Saribai, directeur exécutif du secrétariat de la SICA. Depuis la création de la SICA par le Kazakhstan en 1992, l'organisme sert de forum intergouvernemental et tente de renforcer la coopération en vue de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en Asie. La Russie et la Chine, ainsi que des pays comme l'Iran, les Émirats arabes unis et la Turquie, en sont membres. Le potentiel de la SICA est suffisamment grand pour renforcer le partenariat entre ses membres et maintenir une communication durable, a-t-il noté en soulignant la volonté de l'Iran de partager ses expériences, notamment dans le domaine de la science et de la technologie, du développement économique, de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé avec les autres membres de l'instance. Kairat Saribai a pour sa part salué le rôle de l'Iran dans l'organisation de divers événements du forum, en particulier ceux qui concernent le développement économique et la lutte contre le terrorisme. Mardi 30 mai, l'Iran et le Turkménistan ont signé 5 accords de coopération et 3 protocoles d'accords économiques et énergétiques à Téhéran, après une rencontre entre le président iranien Ebrahim Raisi et le président du Conseil populaire du Turkménistan, Gurbanguly Berdimuhamedov. Deux responsables iraniens et turkmènes ont apposé leur signature sur les documents qui décrivent la coopération entre les deux pays dans des domaines tels que les corridors internationaux
et le transit de marchandises, l'énergie, les exportations agroalimentaires, l'électricité, l'éducation et l'investissement, entre autres. Le Turkménistan et l'Iran sont deux grands producteurs de gaz naturel dans le monde et échangent du gaz à des fins d'échange, swap, depuis des années. Le président iranien affirme que l'Iran et Oman ont une position commune sur l'amélioration de la sécurité, de la paix et du bien-être des nations de la région. Lors d'une réunion entre les délégations de Oran, d'Iran et d'Oman à Téhéran, dimanche 28 mai, en présence du sultan d'Oman, Haitham bin Tahir al-Said, le président iranien a déclaré que le renforcement de la convergence régionale poursuivie par les deux parties contribuera à l'essor de leurs relations et coopération. Rappelons que Téhéran et Mascate ont progressé dans l'amélioration de leurs liens, du commerce au niveau des investissements. Le président iranien s'est réjoui que les deux pays jouissent de capacités pour renforcer la coopération dans les domaines de l'industrie, du commerce, des communications, de la défense et de la sécurité, des routes et des voies ferrées, du transport et du transit maritime, des échanges financiers et monétaires et de l'énergie. Le sultan Haitham a pour sa part rappelé que les deux parties avaient réussi à doubler leurs échanges commerciaux mutuels depuis la visite du président iranien à Mascate en mai dernier. Haitham bin Tahir al-Said est arrivé dimanche 28 mai à Téhéran pour une visite d'État de 2 jours. L'objectif de cette visite est de renforcer les relations amicales entre les deux pays dans divers domaines, d'élargir la coopération et d'examiner les derniers développements dans la région et dans le monde. La visite se concentrera sur la promotion de la coopération bilatérale et s'appuiera sur les accords conclus lors de la visite du président iranien à Mascate en mai de l'année dernière. Au cours du voyage clé du président Raisi à Mascate, des responsables iraniens et omanais ont signé 12 documents de coopération et mémorandums d'accord pour l'expansion de la coopération bilatérale dans divers domaines. Ce dimanche, les deux parties ont également signé 4 documents de coopération dans les domaines de l'économie, de l'énergie, des investissements et des zones franches. La visite du sultan Haitham à Téhéran marque une étape importante dans les relations entre les deux alliés régionaux, ouvrant de nouvelles voies pour une coopération diplomatique plus étroite et un dialogue accru. Oman est depuis longtemps un médiateur dans les interactions entre l'Iran et l'Occident. Le pays a négocié la libération de plusieurs citoyens étrangers et binationaux et participé à l'élaboration de l'accord nucléaire de Vienne en 2015. Au cours de sa visite au Liban, le directeur de la radio-télévision de la République islamique d'Iran, IRIB, Peyman Djebeli, s'est entretenu dimanche 28 mai avec le secrétaire général du Hezbollah libanais, Saïd Hassan Nasrallah. Le chargé d'affaires de l'ambassade iranien à Beyrouth a également participé à cette réunion. Les défis médiatiques et politiques avec lesquels est aux prises l'axe de la résistance ont été abordés lors de cette rencontre. La manière d'interagir avec ces problèmes a été considérée comme une part de responsabilité de l'axe de la résistance pour affronter le faux régime israélien. Au cours de sa visite au Liban, le directeur de l'IRIB et la délégation qui l'accompagnait ont rencontré le président de la Chambre des députés du Liban, Nabih Perry, dans le but de commémorer le 23e anniversaire de la libération du sud du Liban. Grâce à la résistance du peuple du Liban, on a assisté à un changement de carte politique de la région et du monde, a indiqué Peyman Djebeli après sa rencontre avec Nabih Perry. Il est à noter que Peyman Djebeli est arrivé vendredi 26 mai à Beyrouth, capitale du Liban, afin d'élargir les relations culturelles avec ce pays. Lors de son arrivée à l'aéroport international Rafik Hariri de Beyrouth, M. Djebeli a affirmé que sa visite visait à une consultation en vue de l'amélioration de l'interaction médiatique entre l'Iran et le Liban comme moyen de meilleure représentation des acquis de l'axe de la résistance. Il a salué la couverture correcte, ponctuelle et rapide des événements sensibles dans le pays qui forment l'axe de la résistance régionale. Le directeur de l'IRIB a évoqué l'importance de l'intégration et de la synergie entre les médias de la région dans le processus de couverture des victoires de la résistance. Lors de sa rencontre avec son homologue irakien, le nouveau secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale évoque le récent accord de sécurité Iran-Irak, fournissant une feuille de route pour assurer une sécurité durable aux frontières communes. Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien a déclaré que le récent accord de sécurité entre l'Iran et l'Irak fournissait une feuille de route pour assurer une sécurité durable aux frontières communes et qu'il jetait les bases d'une coopération élargie dans d'autres domaines. Ali Akbar Ahmadian a fait cette remarque lors d'une réunion avec le conseiller irakien à la sécurité nationale, Rassim al-Araji, lundi 29 mai, alors que les deux hommes ont échangé des vues et discuté de la mise en œuvre de l'accord de sécurité Téhéran-Bagdad signé en mars, ainsi que des plus importants accords régionaux et de développement internationaux. Le président turc Recep Tayyip Erdogan est donné en tête dimanche soir du second tour de l'élection présidentielle après le dépouillement de plus de 98% des voix, selon l'agence de presse Anadolu. Au pouvoir depuis 20 ans, Erdogan obtient à ce stade 52,3% des suffrages contre 47,7% pour son adversaire Kemal Kılıçdaroğlu, selon ses résultats provisoires. Des partisans d'Erdogan commencent à célébrer la victoire du président sortant à Istanbul. À noter que les Turcs se sont rendus aux urnes pour le second tour des élections présidentielles qui opposent le président Recep Tayyip Erdogan au chef de l'opposition Kemal Kılıçdaroğlu. Le taux de participation globale au premier tour a été de 87,04%, parmi lesquels 49,5% des suffrages sont allés à Erdogan et 44,9% ont été exprimés en faveur de Kılıçdaroğlu. Une nouvelle vague de raids aériens israéliens sur la Syrie active la DCA syrienne. Une forte explosion s'est fait entendre dimanche, tard dans la nuit, au-dessus de Damas, la capitale syrienne. L'agence de presse officielle syrienne Sana a rapporté, citant des sources locales, que d'intenses raids aériens ont été menés par l'armée du régime sioniste sur la capitale syrienne et ses alentours. La DSA de l'armée syrienne a réussi à intercepter plusieurs missiles. Selon une source militaire citée par Sana, l'attaque a eu lieu vers 23h45 heure locale dimanche. Elle a été lancée depuis les hauteurs occupées du Golan, ciblant certaines zones à proximité de Damas. Nos défenses aériennes ont intercepté les missiles de l'agression israélienne et abattu certains d'entre eux, a déclaré la source, ajoutant que l'attaque n'avait causé que des dégâts matériels. Israël occupe les hauteurs du Golan depuis 1967, lorsqu'il a mené une guerre à grande échelle contre la Syrie et plusieurs autres pays de la région. Depuis, le régime y a construit des dizaines de colonies, bien que la communauté internationale n'ait jamais reconnu son contrôle autoproclamé sur le territoire montagneux. Tel Aviv utilise le territoire comme rampe de lancement pour ses actes d'agression militaire contre la Syrie. Les forces israéliennes ont pris d'assaut mardi 30 mai un camp de réfugiés à la périphérie de la ville de Naplouse en Cisjordanie, blessant au moins 46 Palestiniens. Des sources de sécurité palestiniennes ont déclaré qu'une grande unité des forces israéliennes avait pénétré dans la maison familiale d'Hassan Ratanani et l'avait mesurée avant de la démolir. Le jeune palestinien Ratanani a été tué par les forces israéliennes au début du mois. L'armée du régime sioniste a affirmé qu'il était responsable de la fusillade d'avril dans la vallée du Jourdain qui a tué trois colons. Au cours du raid, les soldats israéliens ont également pénétré dans plusieurs autres maisons et ont mesuré la maison du palestinien Houssam Salim qui a été tué. Ce dernier aurait planifié et dirigé une fusillade du groupe de résistance palestinien La Fosse Lyon, basé à Naplouse, qui a tué un soldat israélien dans le nord de la Cisjordanie en octobre dernier. Mardi, les forces d'occupation ont fait une descente dans le camp de réfugiés de Nour Shams, près de la ville de Tul Karem en Cisjordanie, provoquant des affrontements avec des combattants de la résistance palestinienne.
La brigade Al-Quds, branche militaire du djihad islamique de la Palestine, a fait état d'une opération anti-israélienne qui s'est soldée par un affrontement entre les soldats sionistes et les combattants de la résistance palestinienne à Tul Karem, dans le nord de la Cisjordanie. Suite à l'échange de tirs entre les deux parties, plusieurs soldats sionistes qui s'abritaient à proximité d'un véhicule militaire ont été blessés. L'un des blessés aurait perdu la vie par la suite, selon des informations israéliennes. Les médias israéliens ont annoncé mardi la mort d'un Israélien qui a succombé à ses blessures après avoir reçu une balle près de la colonie de Haremish, près du village de Rafin, au nord de Tul Karem. Les responsables israéliens, craignant la montée des opérations anti-israéliennes dans le nord de la Cisjordanie, ont tenu une réunion peu de temps après l'opération pour examiner la situation. Le Hamas a annoncé que les fusillades quotidiennes en Cisjordanie, dont la dernière a eu lieu mardi 30 mai près de la colonie Haremish, au nord de Tul Karem, confirme l'échec de l'occupation sioniste à éliminer la résistance palestinienne. Voilà, ainsi s'achève ce programme. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, au revoir et passez une très bonne semaine. Thank you.